Les élections européennes, c'est dans moins de 2 mois. Les citoyens des 27 pays membres renouvellent les plus de 700 membres de leur Parlement avec une difficulté. Les électeurs ont parfois du mal à cerner l'action réelle de leurs eurodéputés. Alors, quel est le bilan de la législature actuelle? On en parle avec notre invité, Laurent Varlouzet, professeur spécialiste des questions européennes, coordinateur de l'étude Bilan de la 9e législature du Parlement européen réalisée par le collectif de chercheurs Eurolab. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On ne pourra pas évoquer tous les textes votés par le Parlement européen en 5 ans, évidemment, mais il y en a eu 2 cruciaux, 2 grands pactes. Le premier, c'est le pacte climat, très ambitieux, avec pour objectif la neutralité carbone en 2050. Mais on l'a vu aussi, la question économique reprend souvent le pas sur les enjeux écologiques. On l'a vu récemment sur les sujets agricoles. Quel est le bilan réel de l'action du Parlement sur ce volet environnement?
Oui, le bilan est double. D'un côté, au départ, un certain nombre d'accords très ambitieux ont été adoptés au départ de la mandature, c'est-à-dire entre 2019 et 2022. Donc on a eu, par exemple, l'interdiction des voitures thermiques, c'est peut-être le plus connu, interdiction des voitures thermiques en 2035. L'élargissement aussi du marché des quotas d'émissions, c'est-à-dire des contraintes supplémentaires pour les acteurs économiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et en compensation, une taxe carbone aux frontières, enfin ça s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire taxer certains produits qui ne seraient pas soumis aux mêmes contraintes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un certain nombre de textes très importants qui ont été adoptés au départ, entre, disons, 2020 et 2023. Et puis depuis la mi-2023, deuxième temps, là il y a eu une réaction plus hostile à ces textes environnementaux en raison de l'inflation, qui est inédite depuis 30 ans, en raison de perception d'un ébranlement assez fort du mode de vie, en raison aussi parfois d'arguments assez fallacieux sur l'épouvantail écologique. Bon, quoi qu'il en soit, on a eu là un tournant avec certaines lois européennes comme des lois sur la biodiversité qui ont été véritablement réduites, éviscérées, un règlement sur les pesticides aussi qui n'a pas été adopté, et puis une réforme de la PAC là qui est en train d'être adoptée à la hussarde dans un sens productiviste. Donc on voit bien 2 temps dans ce bilan environnemental du Parlement européen.
Donc voilà pour le bilan environnemental. Et l'autre grand pacte qui a été voté, c'était le pacte asile et migration. 3 ans et demi de négociations pour réformer un système qui alimente des tensions et des divisions, toujours parmi les 27. Est-ce que là, on peut parler d'un tournant là aussi?
Alors c'est une évolution vers une Europe plus fermée, plus protectrice, ce que la Commission appelait l'Union de la sécurité en 2020. On voit bien que là il y a une évolution là qui est un peu transpartisane, même si le pacte asile et migration a été voté par une majorité au Parlement européen, il doit encore être voté au Conseil, mais avec quand même des divisions. Donc la droite et l'extrême droite pensant en partie qu'il est trop laxiste, et une partie de la gauche, l'extrême gauche, trouve qu'il est au contraire trop restrictif. Alors ce pacte asile immigration, bon, déjà il faut dire que il est arrivé après un accouchement au forceps, hein. Il y a eu 3 ans de négociations, 10 textes, des milliers de pages. Bon, il est fondé sur l'idée d'une gestion des arrivées à la frontière avec un filtrage des demandeurs d'asile pour étudier rapidement le cas de ceux dont les chances d'admission sont faibles, et puis sur un mécanisme de solidarité en cas de relocalisation. Donc ça, c'est sur le papier. Évidemment, ça pose toujours un problème humain, évidemment, puisqu'on a toujours des flux massifs de migrants qui risquent leur vie. Il y a aussi d'autres éléments de contestation. On en parle dans la note. Les juristes, par exemple, se posent la question de cette notion de fiction non-entrée, puisque les demandeurs d'asile arrivent à la frontière, mais seraient retenus dans des instances encore mal définies, dans des endroits où il pourrait y avoir une privation de liberté partielle. Il y a le problème de la prise en charge de la vulnérabilité des migrants, il y a la prise en charge le problème du contrôle des flux. Donc, vous voyez, c'est un pacte qui, à la fois ne satisfait personne, mais en même temps, dont l'accord était.
Et qui pourrait encore bouger. Si, par exemple, on voit encore l'extrême droite qui monte régulièrement en Europe avoir plus de place au Parlement européen, on pourrait imaginer que les cartes seraient encore rebattues sur la prochaine législature.
Tout à fait. J'allais dire que l'accord était dans une certaine mesure quand même un peu inespéré. D'ailleurs, il y a eu une pression à droite et à gauche, dans la droite et la gauche modérée, pour que le pacte soit adopté avant les prochaines élections. Bon, d'abord parce que ça permettait de donner un bon bilan du Parlement européen, et aussi parce que une partie de la gauche, notamment, l'a voté en dépit de certaines réticences, parce qu'elle avait peur que si l'extrême droite fasse un bon score aux prochaines élections, le pacte ne soit détricoté et rendu plus dur encore.
Et il y a aussi un autre point que j'aimerais qu'on aborde rapidement, c'est le fait que ce Parlement a été bousculé par la guerre en Ukraine, un changement de logiciel historique pour l'Union européenne. Est-ce que, en quelques mots, le concept de défense européenne a progressé ?
Alors oui et non. Moi effectivement, j'ai publié un livre qui s'appelle Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance. Bon, pendant longtemps, l'Europe c'est surtout la liberté avec un peu de solidarité, l'Europe du libéralisme régulé, et pas vraiment d'Europe puissance. Là, il y en a un petit peu plus depuis la guerre en Ukraine. Certains instruments ont été développés, le Fonds européen de défense. Bon, il y a deux règlements aussi sur la production d'armement en commun auxquels je vous renvoie à la note. Mais donc d'un côté, on peut dire que de manière inédite, l'Union européenne s'est impliquée dans le domaine de la défense, alors que c'était plutôt une union justement pacifique et qui entendait résoudre les conflits par la norme, par le droit. Mais d'un autre côté, on voit bien que l'essentiel des arbitrages se fait au niveau soit des États, soit au niveau de l'Alliance Atlantique.
Merci beaucoup Laurent Varlouzet, désolé de vous interrompre, le temps file vite. On le rappelle, vous avez coordonné l'étude bilan de la 9e législature du Parlement européen d'Eurolab, un collectif de chercheurs qui travaille justement sur l'Union européenne.